Ce matin encore, il va nous parler selon nos besoins. Je crois que, après avoir été renouvelé comme nous l'avons été hier soir, dans sa glorieuse présence, le Seigneur veut nous conduire plus loin. Une fois que nous sommes renouvelés dans notre être intérieur comme extérieur, notre être fait un tout, esprit, âme et corps, nous sommes une trinité faite à l'image de Dieu. Dieu aussi est comme nous, il nous a créés à son image. Alors, après avoir été restaurés, je voudrais développer ce matin plusieurs points. Il veut nous utiliser aussi pour bénir son peuple. Vous vous rappelez, hier soir, on a vu la restauration du peuple d'Israël dans les chroniques et nous avons vu comment la progression dans la purification, la sanctification, la disponibilité, le renouvellement de l'amour pour Dieu et tout cela. Et maintenant, j'aimerais en arriver au service. Après, à la fin, le peuple de Dieu, les Lévites, les sacrificateurs, se sont levés pour bénir le peuple. Bénir. Le Seigneur veut nous établir en bénédiction pour son peuple. C'est ce qu'il veut faire. Alors, il y a plusieurs étapes aussi, plusieurs points importants à saisir. Le premier point que j'aimerais développer, c'est l'importance d'avoir une bonne motivation quand nous servons le Seigneur. Très important. De tout faire pour la gloire de Dieu. Rien pour nos intérêts personnels ou notre gloire personnelle ou notre réputation personnelle. Et le Seigneur nous regarde faire. Et parfois, il nous arrive, malheureusement, de ravir la gloire au Seigneur. Alors vite, demandons pardon. Vite, ne touchons pas à la gloire de Dieu parce qu'il est dit que Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Jamais. Donc, c'est très dangereux de toucher à la gloire de Dieu et d'être là comme pour se vanter, pour se mettre en avant, pour faire les choses pour qu'on soit vu. Vous savez, on peut avoir une motivation profonde dans le cœur. Et il faut drôlement la surveiller. Parce que notre ennemi numéro un, je dirais, c'est notre orgueil. Numéro un. Alors, la motivation de tout faire pour la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on lise dans 1 Corinthiens 1, 27. Un petit passage. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alors, plus vite nous réalisons que nous ne sommes rien du tout qu'une petite poussière devant Dieu, devant un Dieu si grand, qui a créé l'univers tout entier, que nous ne pouvons même actuellement, avec toute la science que nous avons, pas mesurer, plus vite nous réaliserons que nous sommes petite poussière et que nous servons un grand Dieu, plus notre motivation sera facile à avoir. La bonne motivation, celle qui donne la gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Réalisons que nous devons toujours donner toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est important, c'est vital pour une bonne croissance dans le Seigneur et pour que nous puissions être une bénédiction à son peuple. Un deuxième point, je ne m'attarderai pas trop sur celui-là, c'est Galates 2, 20. Nous allons voir aussi, j'aimerais qu'on lise ça aussi. Galates 2, verset 20. 19 déjà. Oui, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Mais c'est ce passage, je vis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un deuxième point à développer, celui de renoncer à nous-mêmes. Première chose, donner toujours toute la gloire à Dieu. Deuxièmement, renoncer à nous-mêmes. Prendre sa croix, comme nous avons chanté aussi. Prendre sa croix et le suivre. À un moment dans ma vie, j'ai dû dire, Seigneur, je renonce à mes intérêts, à ma vie. Et d'une façon un peu globale et entière, mais c'est à renouveler chaque jour. Chaque jour, il faut y revenir, à la croix. Prendre sa croix, renoncer à soi-même, à sa réputation, à ses intérêts. Merci Seigneur, je veux prendre ma croix, je veux te suivre, je veux être une lumière dans ce monde et te refléter, refléter ta gloire. Alléluia Seigneur, merci de nous aider à cela. Et alors là, un autre point qui a été tellement, tellement développé dans les chants ce matin. Un troisième point, être renouvelé, pour servir Dieu, il faut être renouvelé dans ma conception de Dieu. Dans l'importance d'avoir une bonne vision de Dieu, une bonne conception de Dieu, de refléter, afin de refléter et de communiquer son image. Le Seigneur veut que nous le reflétions, reflétions sa gloire, son amour, sa miséricorde, sa puissance. Et pour cela, pour avoir une bonne vision de Dieu, il y a trois points, trois sous-points. Le premier, c'est connaître et réaliser que Dieu est saint. Déjà hier soir, j'ai un peu développé cela, mais j'y reviens, parce que je pense que c'est nécessaire. Et nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 4, verset 8, Apocalypse chapitre 4, verset 8. Vous savez, il s'agit, on peut déjà lire au verset 6, au milieu du verset 6, au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit quoi ? Qu'est-ce qu'ils cessent de dire ? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Voyez ça, il y a tout un message rien que dans ce verset. Est-ce que les saints, est-ce que les quatre êtres vivants ont dit amour, amour, amour est le Seigneur ? Est-ce qu'ils ont dit ça ? Pas du tout. Et pourtant, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. D'accord qu'il faut s'aimer. Ok, c'est tout à fait ça. Dieu est amour, c'est vrai. Mais avant d'être amour, il est saint. Avant d'être amour, il est saint. Parce que ses racines, les racines de son amour, vont se plonger dans la sainteté. Il nous aime dans la mesure où il nous dit ce qu'il ne va pas, où il nous corrige. C'est ça un vrai père. Quelqu'un qui nous aime vraiment. Ce n'est pas quelqu'un qui nous dit « tout va bien, t'es bien gentil, t'es... Hein ?» On aimerait bien toujours entendre ça. Mais le Seigneur fait notre éducation. Et parce qu'il est saint et qu'il nous aime, il nous dit la vérité concernant notre situation. Et comment il nous voit, lui, lui qui est saint. Alors nous avons avantage à tenir compte de son opinion. Parce que de toute façon, ce n'est pas lui qui se trompe, c'est nous. S'il y a quelque part une erreur, c'est de notre côté à nous, hein, de toute façon. Dieu est saint. Et les racines de son amour se plongent dans sa sainteté. La sainteté est l'essence même de Dieu. C'est sa nature, la sainteté. Il est dit aussi que rien de souillé ni d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte, rien de souillé ni d'impur. Alors, c'est important de le réaliser quand nous servons Dieu, que nous servons un Dieu saint et que nous ne disions pas aux gens que tout va bien, par amour soi-disant, quand tout va mal. Que nous soyons vrais avec eux, tout en les aimant, en ayant un esprit d'amour, c'est sûr, mais en leur disant toujours la vérité, dans l'amour, dans la charité, comme le dit la parole. Alors, la sainteté est l'essence même de Dieu. Quand Marie a conçu l'enfant Jésus, le saint enfant, il est dit. Le saint enfant. Il était saint dès sa naissance. Parce qu'il était Dieu en même temps qu'homme. Ça, c'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre. Et il y a des mystères dans la parole de Dieu que nous comprendrons là-haut. Merci Seigneur. Le Saint-Enfant qui naîtra. Et il est aussi question du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Tellement de choses nous parlent de la sainteté de Dieu dans les Écritures. Tellement de choses que nous ne pouvons pas ignorer, nous ne pouvons pas passer à la légère là-dessus. Et plus nous serons imprégnés de sa sainteté, plus notre témoignage sera efficace dans ce monde. Plus nous serons vraiment la lumière du monde et le sel de la terre. Mais si nous avons une vie mi-figue, mi-raisin, vous savez, un pied dans le monde, un pied dans l'Église, et que nous n'avons pas une position claire, divine, notre témoignage en sera amoindri, terni. Et c'est un Dieu saint que nous servons, qui est plein d'amour, plein de puissance et plein de sagesse. Nous avons avantage à servir Dieu avec révérence, avec respect, beaucoup de respect. Parfois, dans nos milieux, nous manquons de respect, parfois. Je pense. Et parfois, peut-être dans ma propre vie, je manque de respect. Chacun de nous, chacune de nous. Je pense que là aussi, le Seigneur veut que nous grandissions, que nous ayons un respect toujours plus grand pour sa sainte personne. Parce que maintenant, nous tolérons dans nos églises beaucoup de choses, mais qui ne reflètent absolument pas le respect de Dieu. Et si nous devons le respect à Dieu, Dieu aussi nous respecte profondément. Et il ne nous fera pas faire des choses humiliantes, soi-disant pour nous humilier, comme on voit actuellement des gens qui se roulent par terre, soi-disant sous l'onction d'un Esprit Saint. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est attristant ce qui se passe actuellement, soi-disant sous l'Esprit Saint, sous l'onction d'un Esprit Saint. Comment un Esprit Saint peut-il nous faire faire des aberrations comme celle-là? Un Esprit Saint, je dis, un Dieu Saint. Toute la parole reflète la sainteté de Dieu. Et rire. Rire de quoi? De la croix de Jésus? Comme ça se fait? C'est grave. Qui est-ce qui rit? Quand on parle des souffrances de Jésus, qui est-ce qui rit? C'est pas Dieu, c'est pas l'Esprit Saint non plus. C'est un autre esprit. Alors attention à cet esprit de séduction qui est actuellement répandu dans le monde entier. Une vague de séduction énorme. Il faut être mis en garde. Il faut faire attention. N'attribuons pas au Saint-Esprit de Dieu n'importe quoi. Dieu est saint. Voilà, j'en finis avec Dieu est saint. Et maintenant, je vais développer Dieu est grand. Comme nous l'avons tant chanté. Ah, ça m'a fait plaisir parce que c'est exactement ce que j'avais sur le cœur. Dieu est grand. Il est tellement grand qu'on ne peut pas le mesurer, qu'on ne peut pas lui mettre des limites, des frontières, le définir même correctement, sauf ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous devons nous contenter de cela jusqu'au jour où nous le verrons. Et là où nous découvrirons vraiment qui il est. Mais merci Seigneur pour sa parole qui nous a laissé une image merveilleuse de sa grandeur et de sa puissance. Pour être en mesure de glorifier Dieu et de bien le servir dans notre vie, réalisons que notre Dieu est un Dieu infini, infini, infiniment grand. Le désir de Satan est de nous faire minimiser notre Dieu, de la baisser toujours. Alors tout ce qui abaisse Dieu ou qui cherche à abaisser Dieu n'est pas de Dieu. Ça aussi, c'est un signe, un avertissement. Alléluia. Et nous avons besoin, en fait, nous avons besoin d'une révélation toujours renouvelée de sa grandeur, de sa majesté divine et de sa puissance. Une connaissance limitée de sa grandeur nous empêchera de rechercher sa gloire dans notre vie. Une connaissance limitée de Dieu nous empêchera de chercher la gloire de Dieu dans notre propre vie. Donc il est important que nous prenions le temps de lire les Écritures, et en lisant les Écritures, nous voyons, nous découvrons la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, en lisant les Écritures. Mais si nous ne nous imprégnons pas des Écritures, nous ne pourrons pas connaître Dieu et sa grandeur. C'est important de lire les Écritures, très important. chaque jour, s'en imprégner. Et vous savez, on se fait toujours une image trop faible de Dieu, de toute façon, trop petite. Dieu est souverain. Le psalmiste dit, il règne sur toute la terre. Ça aussi, nous l'avons chanté. Il règne sur toute la terre. Il y a beaucoup de choses que je développe qui étaient dans les chants déjà. Mais merci Seigneur, le Seigneur confirme ainsi sa pensée de ce matin. Merci Seigneur. Dieu est souverain, il règne sur toute la terre, dans le psaume 24, versets 1 à 3. Deuxième point, Dieu est puissant et majestueux. Sa puissance est illimitée, il est tout puissant. Troisième point, Dieu est créateur. Psaume 29, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue, l'œuvre de ses mains. Vous savez, quand on voit la majestueuse création qui nous entoure et quand on voit au microscope les petites choses que Dieu a créées, les petites cellules, et puis quand on voit les montagnes majestueuses qu'il y a dans nos pays, ça nous parle, tout ça nous parle de la grandeur de Dieu. Il a créé la terre pour notre joie, pour notre épanouissement. L'homme est en train de la salir, mais ça, c'est un autre problème. C'est son péché. Mais nous, les chrétiens, regardons la merveilleuse création que Dieu a placée autour de nous et jouissons-en et réjouissons-nous dans le Seigneur. Sa grandeur, sa majesté, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue l'œuvre de ses mains. Et si l'homme, actuellement, il veut tout contrôler, il veut tout dominer, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Des tremblements de terre, il y en a toujours. Dieu montre qu'il est là. Et il agit comme il veut. Et l'homme est dépassé par la grandeur de Dieu. Le Seigneur est glorieux. Et lorsque Jésus était sur la terre, il reflétait admirablement la gloire de son Père. Et il est dit, et la parole a été faite chair. Nous aussi, nous sommes appelés à refléter Dieu dans tout ce que nous faisons. Et là, c'est toute une école. Il faut s'examiner, il faut s'observer, il faut dire, est-ce que ce que je viens de faire, c'était pour la gloire de Dieu? Et si on fait des erreurs, le Seigneur veut qu'on se corrige. Il ne veut pas qu'on continue de faire les mêmes erreurs jusqu'à la fin de notre vie, tout le temps, revenir dans les mêmes erreurs. C'est ça la grâce de Dieu. Le Seigneur nous donne la force de changer pour mieux le refléter. Par exemple, il dit, à toi le vouloir et à moi le pouvoir. À Dieu le pouvoir de nous changer, mais à nous le vouloir. Et il ne le fera pas pour nous. Nous devons lui dire, oui, ok Seigneur, je veux que tu me changes. Sinon, le Seigneur ne pourra pas nous changer. Il y a un effort à faire, il y a une disponibilité, comme on l'a vu hier, à ce que le Seigneur nous change. Et Dieu est glorieux, il veut que nous reflétions son image en le servant. Un cinquième point, Dieu est omniscient et omniprésent. Ça veut dire omniscient. Il sait toute chose. Il sait tout. Toute la science et toute la connaissance. Il en a plus que tous les hommes de la terre et tous les savants du monde. Et de tous les siècles. Et de tous les temps. C'est lui qui a créé toute chose. Il a parlé et le monde a été créé. Une parole de sa part, vous vous rendez compte? Et le monde a été créé. Quelle puissance, quelle sagesse, quelle science! On se sent bien petit à côté de tout ça. Bien petit. Et c'est vraiment une grâce quand le Seigneur nous utilise. Vous ne trouvez pas? Quand le Seigneur veut bien se servir de nous. Oh, merci Seigneur pour ta grandeur, ta magnificence, ta majesté, ta force, ta puissance. Merci Seigneur. Donc voici les points que je voulais développer sur la conception de Dieu. Encore un troisième point maintenant que j'aimerais développer rapidement sur avoir la bonne conception, la bonne vision de Dieu. C'est que Dieu est saint, nous l'avons vu. Dieu est grand. Et maintenant, Dieu est parfait dans toutes ses voies. Reconnaissons, et je crois que ça c'est peut-être la chose qui nous est le plus difficile parce que dans l'épreuve, on ne comprend souvent rien du tout. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Il est parfait dans toutes ses voies. Et c'est dans l'épreuve que nous avons bien sûr le plus de peine à le reconnaître. Et je veux juste rapidement vous donner un petit mot de témoignage que j'ai commencé avec la sœur ce matin, mais je serai brève, je dirai ça rapidement. Le Seigneur m'a brisée à la racine il y a plus de 25, plus, il y a plus de, je sais plus, 30 ans. Quand il m'a repris, il m'a pris mon premier enfant. Et là, disons, il m'a touchée dans ma chair. Et j'ai appris à connaître un Dieu que je ne connaissais pas. Un cœur de père que je ne connaissais pas du tout. Et j'attendais mon premier enfant, notre premier enfant. Et puis, je l'ai porté, pour ainsi dire, jusqu'au bout. 8 mois et une semaine de grossesse, donc à terme, pratiquement à terme. Mais ce qu'il y avait, c'est que cet enfant-là, je l'ai porté mort pendant 2 mois. Et je ne le savais pas. Et si bien que quand on m'a placée à l'hôpital, eh bien, je ne savais pas que le docteur m'a juste dit « il y a quelque chose d'anormal avec vous ». C'est tout ce qu'il m'a dit. Et on ne m'avait pas averti avant non plus. Et ça a été une grande, grande épreuve. Et quand l'enfant est arrivé, je passe par-dessus certains détails, quand l'enfant est arrivé, il était mort. Et la sage-femme est venue me dire « votre enfant, il est mort ». Alors, j'ai vraiment, mon cœur a été brisé. C'était l'enfant, j'avais tricoté, j'avais préparé sa layette toute la grossesse. J'avais tout préparé. Et nous étions au collège biblique en Angleterre. Et j'avais tout préparé, la chambre, tout était prêt pour ce bébé qui allait arriver. Et après, on m'a mis dans une chambre avec 25 mamans, toutes chacune sans bébé sauf moi. Disons, c'était très cruel, mais le Seigneur avait son plan, parce qu'il voulait se révéler à moi d'une façon glorieuse, merveilleuse. Et alors, j'ai fait une profonde dépression, pour vous dire que je connais la souffrance aussi, vous savez. Et plusieurs fois dans ma vie, mais cette fois-là, je parle de cette fois-là. Et là, j'ai pleuré tout le temps. J'étais dans une dépression profonde. J'avais l'impression que le monde s'écroulait sous mes pieds, que Dieu m'avait laissé, que Dieu était loin. Non, pas qu'il m'avait laissé, ça, non, je n'ai jamais cru ça. Mais qu'il était très loin. Je n'avais plus goût à lire la parole, plus goût à prier. J'étais jeune. 25 ans et 26. Et puis, j'ai pleuré. Alors, on a tiré le rideau autour de moi pour essayer de m'isoler des autres, pour pas que je dérange. Et puis, le lendemain, toute la journée, toute la nuit, j'étais inconsolable. Et le lendemain matin, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je décroche les écouteurs de radio au chevet de mon lit, que quelque chose, je pourrais peut-être entendre un bon message, quelque chose de bien. Et puis j'ai mis l'écouteur et c'était un pasteur qui a lu une portion des Écritures. La puissance de la parole de Dieu. Oh, là, 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 là. Dieu m'a parlé directement. Et vous savez ce qui... Je ne me rappelle plus du passage qu'il disait, mais je sais une chose. Là, Dieu m'a révélé son cœur de père. Et il m'a montré, je ne peux pas vous l'expliquer, la souffrance qu'il a eue quand il a donné son fils unique. Alors, après cette révélation, parce que c'était une révélation, j'ai plus eu une larme. Ça a été terminé. Ma douleur a pâli à côté. Elle était rien du tout. À côté du grand Dieu qui a donné son fils unique. Unique. Il n'en avait pas d'autre. C'était son fils bien-aimé. Alors, j'étais consolée, consolée profondément, et tellement consolée que j'ai pu être un témoignage à toutes ces femmes qui étaient là, qui m'ont vu pleurer, et qui sont venues. Après, je reprenais ma Bible, je lisais, j'étais dans la paix, j'étais en communion avec le Seigneur, ma communion était rétablie. Voyez, dans l'épreuve, ce que je vais vous dire, dans l'épreuve, c'est pas la peine de vous braquer, parce que si vous vous braquez, vous ne pouvez plus entendre la voix de Dieu, vous ne pouvez plus comprendre les voix de Dieu. Il s'agit de dire « Seigneur, je comprends rien du tout, mais je me soumets à tes plans, tu es parfait dans toutes tes voies. » Et c'est ce qui m'a fait la grâce de faire, puis en entendant, bien sûr, en ayant reçu cette consolation de sa part. Et ces femmes sont venues, et j'ai pu rendre témoignage à toutes ces femmes du Seigneur. Elles sont venues me demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vous a vu pleurer, maintenant vous êtes rayonnante. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors j'ai pu leur parler du Seigneur, j'ai pu leur dire « Voilà ce que le Seigneur a fait, voilà. » Je connais quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui a une solution à vos problèmes. Elle l'avait vu, hein. Elle l'avait vu devant leurs yeux. C'est un témoignage vivant. Et si bien que quand je suis partie un peu avant elle, puisque j'étais plus vite rétablie, Et elles pleuraient, les dames, quand je suis partie. C'était Jésus qui s'en allait. Mais je pense que certainement elles se sont souvenues de... C'était des Anglais, c'était en Angleterre. Mais le Seigneur a été bon. Et je ressens la présence du Seigneur maintenant au milieu de nous. Et le Seigneur m'a montré que ce matin, il allait toucher des cœurs brisés. Il y a une profonde souffrance que personne ne connaît sinon le Seigneur et toi. Et le Seigneur est venu te rencontrer. J'aimerais juste qu'on se lève un petit moment. Nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Un petit moment. Après, nous continuerons. Seigneur, Dieu de l'univers, grand et redoutable, riche en bonté et en miséricorde, puissant dans toutes tes œuvres, toi qui es parfait dans tout ce que tu fais. Seigneur, nous te disons que nous acceptons ta souveraineté, ta royauté dans notre vie. Et que ce matin, Seigneur, je sais que tu consoles certains cœurs. Merci, Seigneur, qui sont dans une grande détresse, une grande souffrance cachée que tu ne peux dire à personne. Levons les bras vers Jésus un peu, comme en signe d'abandon à un Père qui nous aime. Alléluia. Louons juste un petit moment le Seigneur. Disons-lui ce que nous avons sur le cœur. Ouvrons notre cœur à ce Dieu merveilleux qui nous aime tant. Alléluia, Seigneur. Sentez-vous libre de dire à Jésus, dites-lui combien il est bon, combien il nous aime, combien il est merveilleux, combien il est grand. Oh, combien son plan est parfait. Alléluia, Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, toi qui connais les besoins des cœurs. Alléluia, 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 alléluia. Et le Seigneur me montre que ce matin, il y a une dame au milieu de nous qui a vécu un décès. Tu as perdu quelqu'un de cher. Le Seigneur est près de toi. Il veut te consoler maintenant. Reçois la consolation du Seigneur profondément dans ton cœur, très profondément. Oh, merci Jésus, parce que ni le deuil, ni la souffrance, ni les tribulations, ni les angoisses, rien ne pourra jamais nous séparer de ta présence, de ton amour, rien, jamais, ni les hauts. Ton amour est plus grand, plus haut que les cieux, plus profond que la mer, plus infini que la vaste étendue des océans. Seigneur, tu es grand. Merci Seigneur de consoler toutes ces personnes qui auraient besoin de consolation. Alléluia. Je sais aussi qu'il y a une dame qui a été abandonnée par son mari et que le Seigneur veut consoler maintenant et te dire « j'ai un plan pour ta vie ». Oh, ne désespère point si la situation semble désespérée. Oh, j'ai un plan. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu te consoler. Je suis venu te dire que je suis à tes côtés. Et que si je marche à tes côtés, tu n'as rien à craindre. Ni tes enfants non plus. Alléluia, merci Seigneur. Ce que nous ne pouvons pas faire, toi tu le fais merveilleusement dans les cœurs. Tu essuies les larmes des cœurs, Seigneur, ce matin. Tu essuies les larmes des cœurs. Et tu fais les choses à merveille, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci pour ton Esprit Saint, qui est un esprit de consolation. L'Esprit Saint est un esprit de consolation. Et l'Esprit Saint est au milieu de nous. Le Seigneur est au milieu de nous. Et il nous prend comme dans ses bras. Toi qui es blessé, nous sommes comme sa petite brebis. Tu es blessé, peut-être tu as une patte cassée. Il te prend dans ses bras. Il te serre sur son cœur. Et il te dit, ma petite brebis, je comprends ta souffrance. Je sais par où tu passes. Je sais ce que tu as enduré. J'ai compté toutes tes larmes. J'ai entendu tous tes cris. Oh, merci Jésus, tu es le bon berger des brebis. Alléluia Seigneur. Oh, merci Jésus. C'est l'importance de savoir que nous sommes dans le plan parfait de Dieu et que nous faisons ce que Dieu nous demande. Ça, j'en ai parlé un peu hier, je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais c'est tellement important de faire ce que Dieu nous demande. Pas en faire à notre volonté, mais que notre volonté serve à son service, à entrer dans son plan. Et cinquième point, l'importance de réaliser que si nous servons le Seigneur, lui, prend soin de nous. Ça, c'est une réalité. Parce que parfois, nous pouvons avoir... Admettons, vous servez Dieu, vous pouvez avoir vos enfants qui vont tout à fait de travers. Alors, C'est dur, vous savez, de servir Dieu quand vos enfants marchent de travers. Mais là aussi, il faut lui faire confiance et savoir que si toi, tu ne vois rien se passer dans tes enfants, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Dieu agit, que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Et au bon moment, il va les rencontrer. Au bon moment, il va faire quelque chose. Dieu prend soin de nous quand nous le servons. Parce que Dieu ne doit rien à personne. Il ne doit rien à personne. Ce qu'il fait, c'est toujours gratuitement. Par bonté, par miséricorde, par charité. Dieu prend soin de toi et de ta famille si tu sers le Seigneur, si tu penses à lui premièrement. Mais si tu veux porter le fardeau toi-même, tu peux. Mais tu es inutilisable pour le Seigneur. Parce que tu es bloqué. Alors il est temps que tu viennes décharger ton fardeau, ton souci, ta douleur auprès du Seigneur pour que tu sois entièrement libre d'apporter ce que Dieu t'a donné et d'être une bénédiction. Et le Seigneur prendra soin de toi et des tiens. Et j'aimerais qu'on lise le psaume 37, c'est parce que c'est un magnifique passage que nous pouvons toutes serrer sur notre cœur. Je le relis souvent. Psaume 37, verset 25. C'est un très très beau passage. Psaume 37, verset 25. Et c'est le psalmiste qui dit: j'ai été jeune et j'ai vieilli. Donc il y a toute une vie derrière le psalmiste. Hein? C'est pas quand il était jeune qu'il a parlé comme ça. C'est à la fin de sa vie quand il en a vu de toutes les couleurs. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Vous vous rendez compte, quelle promesse extraordinaire de la fidélité du Seigneur qui prend soin de nous et des nôtres. Et je n'ai pas vu le juste abandonné à la fin de ma vie, ni sa descendance mendiant son pain. Donc ne crains pas pour ta descendance, ne crains pas pour toi-même et ne crains pas pour ta descendance. Le Seigneur prend soin de nous. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses filles, ses enfants. Et il nous a rendus dignes de le servir. Mais dignes dans l'humilité. Dignes dans l'abaissement. Dignes dans le brisement. Dignes peut-être dans la souffrance aussi. De le servir. Et il ne nous abandonnera jamais. Et un sixième point, savoir que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, merci de ce que, lorsque nous considérons les choses comme impossibles, toi, tu nous dis, pour moi, c'est encore possible. Si le docteur a dit, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède, miracle, il n'y a rien pour toi, eh bien, il y en a encore un qui n'a pas dit son dernier mot, c'est le Seigneur. Et lui, c'est le grand médecin, le grand sauveur, le grand maître, le médecin des médecins. Le savant des savants, celui qui est omniscient, nous avons vu tout à l'heure, et omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il est aussi bien ici qu'en Chine, qu'en Australie, que partout. Il est partout à la fois, ça nous dépasse. Hein? Il est près de toi aussi bien que de la petite dame chinoise, peut-être qui prie dans son coin là-bas, et qui souffre aussi. Il est près de toi. Comme je le disais l'autre jour, il est plus près de toi dans l'épreuve que ton propre souffle. C'est quelque chose, ça, hein? Il faut le réaliser, que ton propre souffle, c'est fort. Le Seigneur est très très près de nous. Et souvent, nous doutons de sa présence parce que nous sommes environnés de difficultés, de problèmes. Alors apprenons à lui faire confiance dans ces moments-là aussi. Dans ces moments-là aussi. Septième point. Alors là... On en parlait avec ma sœur ce matin. Servir le Seigneur avec joie. Le servir avec joie. La joie de l'Éternel sera notre force. Nous allons le répéter ensemble. La joie de l'Éternel sera notre force. Maintenant, la joie de l'Éternel sera ma force. La joie de l'Éternel sera ma force. Ma force. Amen. Alléluia. Merci pour la joie que tu nous donnes. Seigneur, nous pouvons avoir des larmes dans les yeux, une souffrance dans le cœur, mais nous pouvons avoir une joie profonde que le monde ne connaît pas. Alléluia! Merci Seigneur, mais que nous avons envie de partager avec le monde, par contre. Alléluia. Alors, il y a différentes joies. Je peux parler de plusieurs joies, là. La joie de prier les unes pour les autres. C'est une joie. C'est pas un fardeau, c'est une joie. Prier les uns pour les autres. Avec joie. Ça aussi, c'est un service. Et si le Seigneur vous met à cœur quelqu'un de précis, alors puisse-t-il vous trouver le cœur rempli de joie, oui Seigneur, de disponibilité. Oui Seigneur, je veux prier pour cette personne que tu me mets à cœur maintenant. Et je sais que le Seigneur voudrait beaucoup plus, il me l'a montré plusieurs fois, beaucoup plus utiliser les personnes âgées qui sont très disponibles à ce niveau-là pour leur mettre des fardeaux de prière. Et il voudrait, une personne âgée, souvent, elle pense, à quoi suis-je encore bonne? Eh bien, vous savez, le Seigneur a des ministères pour les personnes âgées, plus âgées, qui n'ont plus d'enfants à élever et qui sont drôlement disponibles. Nous ne sommes jamais au chômage avec le Seigneur, jusqu'à la fin de notre vie. Le Seigneur veut nous utiliser. Et même si tu as des cheveux blancs, si tu es âgé, le Seigneur veut t'utiliser et veut faire de toi une femme de prière. Ça, c'est certain, en tout cas, déjà. Et il a tout un ministère pour toi. Mais à nous deux d'être disponibles et de dire, Seigneur, je veux te servir avec joie, prier pour celles que tu me mettras à cœur ou ceux que tu me mettras à cœur. Et il y a un exemple qui frappant qui me revient à l'esprit maintenant, c'était des missionnaires, un couple de missionnaires qui étaient partis en Afrique, je ne me rappelle plus de quel pays, et ils étaient restés là-bas 3 ans. Et pendant ces 3 années-là, le missionnaire avait perdu sa femme et sa petite-fille. Et il était revenu au pays, je crois que c'est un Américain, il me semble, sauf erreur. Il était revenu au pays seul. Et l'église qu'il avait envoyée s'était engagée pour prier pour lui. Et il est allé à la réunion de prière. Et il s'est mis derrière pour que personne ne le voie. Il est rentré un peu après les autres. Et puis, il a assisté à leur réunion de prière. Il n'a pas été fait mention une seule fois de lui. Alors que cette église s'était engagée à prier pour lui. Alors, vous voyez la gravité. Alors après, il est venu devant, puis il l'a reconnu. Il a dit, oui, je suis en congé. Je suis venu en congé et j'ai perdu ma femme et ma petite fille en mission, qui sont morts là-bas. Mais j'ai compris pourquoi vous aviez lâché la corde. Moi, je suis descendu dans le puits, mais vous n'avez pas tenu votre engagement. Vous n'avez pas continué de prier pour moi. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Nous, on a été missionnaires. Quand on est missionnaire en Afrique, on peut se trouver très seul. Très seul. Et vous ne savez pas combien ça fait plaisir de recevoir une lettre, de recevoir un petit mot de la maison, du pays qui nous a envoyés, ou d'amis que nous avons. Soyez fidèles à non seulement prier pour les missionnaires, mais à être là quand il faut être là, à écrire quand il faut écrire, à envoyer quand il faut envoyer. Ça aussi, c'est le ministère des dames. Ça aussi, c'est le ministère des dames. C'est votre ministère, c'est le mien. Et le Seigneur peut vous mettre à cœur des tâches précises. Soyez fidèles, là aussi. Fidèles. Vous avez vu ce missionnaire? Il a tout perdu à cause de le manque de prière derrière. C'est grave. Notre manque, notre négligence, comme il a été dit hier, peut être grave pour quelqu'un. Soyons fidèles. Pensons que nous sommes liés les unes aux autres. Pas seulement pour nos propres intérêts, pour nous faire du bien, pour passer un bon moment ensemble, comme nous faisons ici. Mais nous sommes liés l'une à l'autre. Le Seigneur veut nous utiliser l'une pour l'autre. Penser l'une à l'autre. Pas toujours à nous-mêmes. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de guérison. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail, j'ai besoin que tu touches mes enfants. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est encore notre égoïsme. Il faut le mettre de côté. Et devenir missionnaire. Servir le Seigneur. Prier pour les autres. La première joie, c'est prier pour les autres. Deuxième joie, la joie d'annoncer l'Évangile et de témoigner. Vous savez, c'est une grande joie quand le Seigneur se sert de vous pour amener quelqu'un au Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie, je crois. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. C'est merveilleux quand quelqu'un se convertit sous vos yeux et qu'il change de vie. Ah, c'est merveilleux. C'est une joie extraordinaire. Et nous pouvons toutes l'avoir. Si nous sommes fidèles, le Seigneur place toujours quelqu'un à un moment donné sur notre route, à laquelle nous pouvons rendre témoignage, à laquelle nous pouvons parler de sa fidélité et de sa grâce. Toutes nous avons des occasions. Que personne ne dise ici qu'il n'a jamais eu un inconverti sur sa route. Ce ne serait pas vrai. Ce serait pas vrai. Le Seigneur nous donne une grande joie d'annoncer l'Évangile et de témoigner. Troisième joie, la joie de vivre avec le Seigneur. C'est merveilleux de vivre avec lui. C'est l'ami par excellence. On ne peut pas le décrire, tout ce qu'on a décrit avant. Il est tout ça pour nous. Et il est un Père merveilleux. Et c'est merveilleux de vivre avec lui, de communiquer avec lui, de lui parler et lui nous parler, entendre sa voix. C'est une grande joie. Une autre joie, c'est la joie de la communion fraternelle. C'est ce que nous vivons ce matin. C'est ce que nous avons vécu hier. Nous sommes ensemble, nous nous réjouissons dans la communion fraternelle. Et c'est une joie, et c'est une grande joie, de voir la gloire du Seigneur dans l'autre, dans ma sœur. Une grande joie. Et vous savez, souvent, on voit les défauts des gens plus que leurs qualités. On voit les défauts des gens plutôt que de voir l'image du Seigneur. Mais dans chacune de nous, il y a une image du Seigneur. Alors ne cherchons pas tout le temps à voir les défauts de l'une de l'autre. Cherchons plutôt à voir la gloire du Seigneur, chacune l'une dans l'autre. Et vous savez, de plus en plus, il y aura une différence entre celui qui est dans le monde et le chrétien. La différence se fait de plus en plus. Parce que dans nos visages, sans que nous nous en rendions compte, un peu comme Moïse qui est monté sur la montagne et qui est descendu avec la gloire de Dieu, il ne savait pas que son visage rayonnait, eh bien il en est de même pour les chrétiens de ces derniers temps. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit qu'avant le retour du Seigneur, eh bien ceux qui se souillent encore, et que celui qui est pur se purifie encore. Eh bien, nous qui cherchons à nous purifier, à vivre dans la présence de Dieu, eh bien, sans nous en rendre compte, à force de vivre devant sa face, son image se reflète en nous, et il y a une gloire qui vient sur nous, que le monde voit. Et je me suis aperçue, c'était frappant, dans certains de nos congrès, où les chrétiens, on est restés ensemble, et où on est monté sur la montagne avec le Seigneur. On mangeait ensemble, on dormait pas dans le même endroit, mais on était toute la journée ensemble, pendant 3 jours. Et le Seigneur nous a tellement visités, on était tellement sur la montagne, que quand on allait dehors, à l'extérieur pour manger, toute l'équipe, hein, toute l'assistance, tout l'auditoire, eh bien, les gens se retournaient, ils regardaient, mais qui c'est ces gens qui passent là? C'est qui ces gens? Ils voyaient une différence. Et il faut que le monde voit une différence. Il faut, parce que nous avons quelqu'un avec nous. Si nous réalisions un peu qui est avec nous, c'est extraordinaire. Nous allons refléter la gloire de Dieu. Et ça, c'est la communion fraternelle, c'est la présence du Seigneur. Une autre joie, la joie de souffrir pour le Seigneur. Ça, c'est une joie qu'on n'aime pas beaucoup, hein, celle-là. Souffrir pour lui, être rejeté à cause de lui. Mais ça fait partie du programme. Et c'est une joie quand même. Réjouissez-vous quand on dira toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, il est dit. Vous vous rendez compte? C'est un peu dur, hein, des fois. Ça, j'admets que c'est un peu dur, hein, ça. Mais que le Seigneur nous fasse la grâce d'accepter aussi cette joie-là et de savoir nous réjouir quand on parle mal de nous. Seigneur, merci de nous donner cette grâce, d'arriver jusque-là. Seigneur, toi, tu n'as jamais perdu ta joie. Même quand on t'a cloué sur la croix, tu étais encore dans la joie. Seigneur, merci. Tu as communiqué cette joie à tes disciples, cette paix qui surpasse toute intelligence profonde. Merci, Seigneur. Et une dernière joie que le Seigneur veut que nous expérimentions, c'est la joie de son prochain retour. Le Seigneur revient bientôt. Et nous pouvons nous préparer à aller à la rencontre de l'époux. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes les angoisses, les tribulations, le péril, les famines, les tremblements de terre, tout cela arriver, levez vos têtes, il dit, car votre rédemption approche. Réjouissons-nous du prochain retour du Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Partout où nous allons, nous entendons parler du retour prochain. Et vous savez, il y a des choses, des prophéties bibliques qui s'accomplissent. On ne peut pas faire un message là-dessus maintenant. Mais Israël, l'établissement de l'Europe, Israël qui avance sa patte géant, l'établissement de l'Antichrist qui vient, la marque de la bête qui existe déjà. Certaines personnes sont déjà tatouées, tout est prêt. Ils vont enlever aussi l'argent liquide, et c'est en train de se faire, c'est incroyable, à une vitesse incroyable, et tout cela annonce le prochain, très prochain retour du Seigneur. Alléluia Seigneur, bientôt tu reviens. Bientôt nous t'attendons Seigneur. Nous voulons être prêtes quand tu viendras. Seigneur, louange, gloire, puissance à toi. Bientôt tu vas venir sur les nuées du ciel. Bientôt la trompette sonnera. Bientôt tu nous annonces ta venue et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite nous les vivants, nous serons élevés jusque dans les airs, dans les nuées avec eux, pour te rencontrer Seigneur. Louange, gloire, honneur à toi Seigneur. Bientôt tu vas revenir. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Voyez la joie qu'il y a là-dedans à se consoler. Levez vos têtes, votre rédemption approche. Ça n'ira pas encore bien longtemps que le Seigneur va venir. Et vous savez, juste maintenant pour terminer, je voudrais vous rappeler une vision, le Seigneur me remémore cette vision qu'il m'a donnée ici au Canada, il y a 3 ou 4 ans, et où j'ai eu une vision du prochain retour du Seigneur, où le Seigneur m'a appuyé cette pensée très fort. Et j'ai vu dans le ciel, j'ai vu le trône de Dieu, l'agneau de Dieu assis sur le trône. Et une grande multitude de chrétiens morts avant nous, de saints qui adoraient le Seigneur, avec des palmes à la main, avec une robe blanche. Une pureté, il y avait dans ce lieu-là, que nous ne connaissons pas, un rayonnement qui sortait du trône de Dieu extraordinaire. Et vous savez, sur le trône était assis l'agneau de Dieu, et attaché au trône, juste attaché derrière, il y avait la croix. Et le Seigneur me disait, il n'y a pas de croix sans trône, et il n'y a pas de trône sans croix. Si nous voulons un jour être assis avec lui sur le trône, il nous faut prendre la croix, nous aussi. Hein? Parce que lui est passé par là. L'agneau de Dieu, immolé, a porté sa croix, lui. Il nous a donné le parfait exemple. Et nous aussi, nous sommes appelés à vivre cela. Et alors, je voyais cette multitude de gens, une multitude qu'on ne pouvait pas compter, mais qui était dans une joie parfaite, une joie extraordinaire. Parce que leurs larmes avaient été essuyées, leur cœur consolé, vous savez, ils étaient dans une paix extraordinaire que nous aimerions tous avoir. Et puis un cran plus bas, un étage plus bas, il y avait tous les chrétiens du monde actuellement vivant sur la terre. Et ceux-là aussi, ils louaient l'agneau aussi. Mais ils n'avaient pas encore des palmes à la main, ils n'avaient pas encore un nouveau nom inscrit sur leur front. Mais ils étaient quand même dans le même esprit que ceux d'en haut. Ils louaient, ils adoraient l'agneau. Et puis le Seigneur me disait, bientôt, je vais réunir ceux qui sont en bas avec ceux qui sont en haut. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et la joie remplira leur cœur. Et la joie inondera leur cœur. Alléluia. Oh, la joie du Seigneur. La joie de son retour. La joie du ciel inondera nos cœurs pour le temps et pour l'éternité. Nous te louons, nous te bénissons. Agneau de Dieu, bientôt tu vas revenir. Bientôt tu vas venir nous chercher. Alléluia, alléluia, alléluia. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Thank you.